7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, une question qui nous concerne tous. Les maires des communes peuvent-ils changer la vie des habitants? Réponse avec des expériences menées par des maires de villages ou de villes moyennes ou plus grandes. Produire de l'électricité, réduire l'étalement urbain, lutter contre l'exode rural ou encore permettre des jardins collectifs. Voilà des expériences qui ont été menées en France. Le territoire local est désormais un lieu où l'on tente des choses avec des citoyens engagés. Reste à savoir si toutes ces initiatives peuvent inspirer d'autres maires, et pas seulement d'ailleurs en France, ailleurs en Europe ou encore plus loin. Bonjour Mathieu Riva.
Bonjour.
Vous publiez « Ces maires qui changent tout » et vous travaillez d'ailleurs dans une SCOP. Qu'est-ce que c'est qu'une SCOP?
Alors une SCOP, c'est une coopérative, c'est une société dans laquelle l'ensemble des salariés on voit au chapitre en fait, et donc peuvent ensemble décider des orientations de l'entreprise en fait.
Ça pourrait être un peu la version commerciale et privée de la ville où les citoyens auraient vraiment des actions participatives finalement, c'est pas
oui,
si
oui,
éloigné
c'est
que
le,
ça.
Effectivement,
hein.
c'est le même principe, c'est l'idée d'avoir une démocratie réelle en entreprise et d'avoir une voix égale un vote. Quoi.
Voilà, et bien là on va en parler pour les communes et chez vous les voisins. Dites-nous ce que font vos maires, concrètement bien sûr, est-ce que vous attendez d'eux? La politique peut-elle se mener par en bas, à partir du quartier? Appelez-nous surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Tous vos messages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Je vous lis deux messages. Un message de Souleymane, N'Djamena, au Tchad. Il habite dans le 10e arrondissement, N'Djamena, la capitale. Dans mon pays, les maires n'existent que par leur nom. Par exemple, les N'Djamena Nadif, qui est l'opération Ville Propre, un service de collecte des ordures ménagères de la commune par des camions. Cette opération ne fonctionne plus pendant la période pluvieuse. Ce sont les populations qui se mobilisent pour améliorer l'état de nos rues. Et sans cette solidarité des citoyens, eh bien nos villes seraient proprement inhabitables. Jacquit à Antananarivo, à Madagascar. Nous n'avons pas de bonnes infrastructures au niveau de nos communes alors que nous payons nos impôts. On se retrouve tous les jours à tous les arrêts de bus pour faire la queue. Le maire ici est vraiment déplorable. Et on en a reçu évidemment beaucoup d'autres comme ça. Des messages au 33 1 84 22 71 71 si vous voulez faire entendre votre voix.
7 milliards de voisins.
Oui, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo.
Soyez les bienvenus.
On est en ligne avec un voisin qui nous appelle de Kinshasa, gigantesque ville, au moins 15 millions d'habitants. Bonjour, Cédar.
Bonjour, Emmanuel.
Cédar, vous avez 27 ans. Alors, il faut préciser pour les autres voisins qui nous écoutent, à Kinshasa, à la tête de la capitale, il y a un gouverneur et puis après, il y a des bourgmestres. Vous, qu'est-ce que vous pensez du gouverneur de la ville où vous habitez et de la gouvernance en général?
Oui. En fait, il y a un gouverneur ici à la ville de Kinshasa qui a son gouvernement provincial. Ils représentent en quelque sorte l'entité décentralisée de la province de Kinshasa.
Mm-hmm.
Mais je constate que la majorité des actions qui sont posées ici dans la ville, ce sont les actions du gouvernement central. Nous voyons les ministres nationaux, les présidents, les premiers ministres qui sont présents à toutes les actions qui sont posées ici. C'est comme si ce gouvernement-là n'agit pas vraiment comme...
Vous voulez dire que quand il y a une inauguration, ce n'est pas le gouverneur qu'on voit, c'est le chef de l'État et ses ministres, par exemple?
Oui, s'il y a une inauguration, s'il y a par exemple quelque chose qui se passe quelque part, il y a toujours la présence des ministres nationaux ou du président lui-même. Mmh. On ne voit vraiment pas la présence du gouverneur dans les problèmes qui sont en train de se poser dans la ville.
Oui, les problèmes concrets de votre quotidien. Mais alors, concrètement, vous le voyez où, le gouverneur?
Oui. Il y a par exemple les problèmes des immondices.
Oui. La gestion des ordures ménagères.
Oui, les ordures. Il y a un problème qui peut être résolu au niveau provincial, en particulier avec la population. Mmh. Mais là, nous voyons que c'est juste le gouvernement central ou encore les organismes internationaux qui sont en train de contribuer, alors que la réalité des actions du gouvernement provincial ils sont vraiment pas visibles.
Oui, c'est ça. Vous voyez davantage les ONG internationales que le gouverneur. Merci Cédar de votre appel. Oui. Un autre voisin de la même ville, Kinshasa, nous appelle Daniel, 22 ans, jeune journaliste. Bonjour Daniel. Daniel, est-ce que vous... Oui, Daniel, vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins. Vous habitez la commune de Selembao, c'est ça, hein? C'est une commune qui est dans le sud de la ville de Kinshasa.
Oui, c'est ça.
Oui.
Oui.
Alors, dites-nous ce que vous pensez du bourgmestre de votre commune, Daniel.
Okay. Bon, moi, je pense que... Le bourgmestre est là, c'est le chef de la commune. Mais le développement de la commune n'est pas la seule priorité pour le bourgmestre. Donc, tout le monde doit participer.
Oui.
Moi, je pense que le bourgmestre seul ne va pas faire toute chose. C'est pourquoi moi, je prends le développement participatif.
Oui.
Parfois, je veux dire, voilà, que le développement participatif, tout le monde doit participer. Les jeunes, les vieux, les mamans, tout le monde doit mettre la main pour le développement de la commune.
Oui, mais alors justement, je sais que vous voulez monter une association, Daniel, vous voulez monter une association communale de jeunes. Est-ce que vous avez obtenu un rendez-vous avec le maire de la commune?
Bon, pas encore. Parce que ça, là, c'est pas le maire, c'est le gouvernement de la commune.
Oui, donc, c'est l'équivalent.
De réaliser ou de mettre en place mon dossier pour aller voir le bourgmestre. Comme je suis du domaine, je suis le journalisme, j'aurais un peu un entrée facile. Donc, je vais en profiter pour en parler au bourgmestre en face comme ça et lui expliquer quoi est mon projet.
Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? Qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en place comme association? Brièvement, en une phrase, Daniel.
Moi, je pense que. L'association, tout d'abord, c'est ensemble pour les changements. C'est le moment que j'ai en tête. Nous devons œuvrer tous ensemble, nous jeunes, les vieux, les mamans, ensemble avec la commune, les bourgmestres, bien sûr, pour prendre les changements, travailler pour le développement de notre commune et de toute la vie en général.
Oui. Merci Daniel de nous avoir appelé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sent bien à travers vos différents messages que vous avez tous envie de communes qui fonctionnent davantage avec la participation des citoyens. Alors, c'est vrai aussi que quand on écoute les élus locaux, notamment sur la gestion des ordures dans certaines villes en Afrique, les élus locaux disent « Oui, mais les citoyens ne veulent pas mettre la main à la poche pour payer un service minimum pour la gestion des ordures. » Alors, bien sûr que c'est compliqué. Mathieu Riva, si on revient à la situation en France, il y a cette aspiration ou pas des citoyens à être davantage associés à la prise de décision dans des communes pas trop grosses?
Alors c'est une aspiration qui est inégalement partagée, il faut être honnête, c'est-à-dire que ça se fait un double mouvement en fait, c'est-à-dire à la fois les maires essaie d'inclure en fait les habitants dans les décisions à prendre, par exemple sur la redéfinition du plan local d'urbanisme. Donc il déploie un certain nombre d'efforts pour essayer d'attirer les habitants. Et force est de constater que les habitants sont pas toujours en fait au rendez-vous.
Parce que certains, passent beaucoup de temps dans les transports pour aller travailler, rentrent le soir, n'ont pas de temps aussi pour s'impliquer dans le devenir de leur ville.
Je pense que c'est pas nécessairement une question d'envie. Je pense que beaucoup de citoyens ont envie de participer, mais c'est aussi les vies qu'on a qui font que on a peu de temps à y consacrer une fois que on a voyagé. Fait des trajets longs, s'occuper des enfants, etc.
Oui, vous avez choisi de parler de 6 maires, 6 communes en France. Vous avez choisi 2 villages, 2 petites villes et une ville plus importante, Grenoble. Dans quelques minutes, on sera en liaison avec le maire de Grenoble et puis la capitale, Paris, qu'on va laisser un peu de côté là, parce qu'on en parle déjà beaucoup. Mais comment vous les avez choisis et surtout, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans la personnalité, dans le travail des maires que vous avez rencontrés?
Alors en fait, le choix a été en partie dicté par l'éditeur. Enfin, c'est un choix qu'on a fait en commun, mais il y avait déjà une liste en fait qu'ils avaient définie. L'idée, ça a été surtout de se dire que on visait pas nécessairement un échelon représentatif, c'est-à-dire que les exemples qui sont présentés là n'ont pas vocation à nécessairement en tirer des grandes leçons générales. Simplement, ce qu'on a voulu faire, c'est effectivement d'avoir deux villages qui sont en zone rurale, deux villes qui sont en zone périurbaine et deux métropoles. Donc les deux villages en zone rurale, il y a un petit village qui est effectivement en Bretagne où il y a environ 200 habitants, dans le centre Bretagne. Un autre petit village qui s'appelle Puy-Saint-André, qui est à côté de Briançon, donc dans les Hautes-Alpes. Et puis deux villes moyennes, l'une dans le nord de la France, une ancienne ville minière, et l'autre à côté de Mulhouse en Alsace, dans l'Est. Et
sur le travail des maires, dans des communes tellement différentes les unes des autres.
Oui, alors ce qui est assez étonnant, c'est que malgré les différences d'échelle et les différents enjeux, tous partagent en fait des préoccupations communes, notamment l'implication des habitants en fait dans les différents décisions et enjeux qui leur sont posés. Donc ils y répondent tous de manière diverse. Il y a à la fois les conseils de quartier, il y a à la fois les budgets participatifs pour les plus grandes villes. Donc chacun essaie à sa manière d'y répondre. Il y a aussi des chantiers collectifs qui sont organisés avec les habitants. Par exemple, à Puy-Saint-André, une fois par mois, les habitants sont conviés à venir nettoyer les canaux et il y a une journée un peu festive qui est organisée. Donc c'est une manière aussi, il n'y a pas que les budgets participatifs ou les conseils de quartier, c'est une manière aussi d'inclure les habitants dans le soin en fait de leur territoire, quoi. C'est-à-dire ils les incluent mais
avec
physiquement
des résultats, avec
dans
des résultats
une
concrets
action, quoi.
Mesurables pour les habitants.
Oui, bien sûr, parce que là du coup c'était pour cet exemple précis, donc les canaux sont régulièrement bouchés. Et donc ça entraîne une consommation d'eau très élevée pour le village, beaucoup plus que ce qu'il faut. Et donc en nettoyant régulièrement les canaux, ça permet que l'eau circule plus facilement et donc ça diminue en fait la consommation d'eau.
Est-ce qu'un maire peut apporter du bien-être aux habitants ?
Oui, alors là, dans les différents exemples, ce qu'on voit très clairement, c'est que l'échelon communal, c'est celui qui est le plus proche des habitants. C'est là où, en fait, les habitants peuvent mesurer le plus concrètement possible les résultats, que ce soit sur la question des déchets, que ce soit sur l'aménagement des espaces.
Alors, dans quelques instants, on donne la parole à Éric Piolle, qui est maire de Grenoble, une ville de près de 150 000 habitants dans l'Isère, Rhône-Alpes.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Nous sommes en ligne avec Éric Piolle, maire de Grenoble. Bonjour.
Bonjour.
150 000 habitants à peu près, c'est ça, Grenoble?
Oui, 160 000, ouais.
Ouais. Vous êtes en Isère, vous êtes devenu un maire emblématique du job de maire, alors avec d'autres maires plus célèbres comme Alain Juppé pour Bordeaux, mais quels sont, en quelques mots, pour nos auditeurs qui nous écoutent loin de la France aussi, mais quelles sont vos actions les plus mesurables pour vos habitants?
Il y a un volet sur la démocratie, je crois, parce que à la fois dans le changement de pratique des élus, que les règles de monsieur et madame tout le monde s'appliquent aux élus, à la fois dans leur mode de déplacement, dans leurs indemnités, dans leur train de vie.
Oui. Bon, concrètement, vous avez baissé les indemnités des élus, il y a moins de voitures de fonction,
oui.
Vous roulez à vélo.
Voilà, effectivement, il n'y a plus de jetons de présence pour les présences d'élus dans les sociétés où ils représentent la mairie, et puis effectivement, comment se déplacer avant, c'est en vélo, à pied, en transport en commun.
En même temps, la vie des élus, ça ne change pas la vie des habitants.
Non, mais ça crée un contact. L'idée était de casser le mur entre les citoyens et les élus et que les citoyens peuvent se dire « oui, effectivement, je pourrais être là aussi » et qu'ils ne se disent pas « tiens, eux, ils vivent dans un autre monde pour d'autres réflexions et d'autres logiques ». Et puis après, c'est au quotidien, de façon très pratique, effectivement, une démocratie participative avec, par exemple, les budgets participatifs. On a mis en place des budgets participatifs, donc c'est une enveloppe de 800 000 euros chaque année où les projets sont proposés par des habitants, des collectifs d'habitants. Ils sont derrière, c'est eux qui choisissent lesquels vont aller jusqu'à être soumis au vote de tous les résidents de plus de 16 ans. Et derrière, on les met en œuvre avec eux, donc services de la ville et habitants. On met en œuvre des projets donc concrets et qui sont très, très variés.
Comme par exemple
Alors comme par exemple une énorme structure de jeu qui s'appelle une dragonne qui a été pensée avec des actions culturelles, une histoire, etc., qui fait une trentaine de mètres de long en bois très haute et magnifique, ou bien un mur d'escalade sur les berges de l'Isère, ou bien un poulailler dans un quartier, des toilettes sèches dans un parc, l'aménagement devant une école pour que ce soit un espace convivial, donc plein de projets en fait qui transforment la ville. Et comme on en fait une dizaine par an, finalement, sur un territoire qui est petit, les habitants voient, ça fait un autre rapport.
C'est ça, la visibilité est importante. Alors, il faut préciser que vous êtes un élu Europe Écologie Les Verts, d'où bien sûr votre implication dans les projets environnementaux. Vous avez aussi largement augmenté les zones piétonnes dans le centre-ville. Un pique-nique citoyen à la place de la Garden Party du 14 juillet, j'imagine, nettement moins coûteux. Vous faites partie des maires qui sont très mobilisés à l'heure actuelle sur la question des migrants. Votre ville est confrontée au problème ?
Oui, alors pour nous, c'est pas un problème. C'est un problème parce que la politique migratoire et d'accueil de la France en fait un problème. Grenoble a été construit par des migrants, à la fois des Italiens, des Espagnols, des Arméniens, puis des Chiliens. On est la deuxième ville qui accueille des Chiliens. On est la deuxième ville aussi en termes de nombre d'Américains présents. L'immigration, évidemment, d'Afrique du Nord, à la fois les rapatriés et l'immigration. Et donc tout cela... En fait, a construit la ville. On est une ville très internationale, une centaine de nationalités, et on continue cet esprit de solidarité, d'accueil et de regarder la migration comme une chance pour l'avenir.
Ouais. Oui, alors quand vous dites pour nous c'est pas un problème, c'est un problème pour le gouvernement, on comprend bien votre position, notamment par rapport au projet de loi sur l'immigration, qui est un projet de loi qui durcirait largement l'immigration économique, pas le droit d'asile bien sûr, mais l'immigration économique. Mais ça veut dire que vous faites partie de ces rares maires qui disent on a tout à fait les moyens d'absorber des migrants et de les insérer économiquement et socialement dans notre ville ?
Oui, aujourd'hui, la politique migratoire qu'on développe fait qu'on retrouve des bidonvilles en ville. Donc on a sur le bassin de vie environ 500 personnes, 400 à 500 personnes qui vivent dans des bidonvilles. Et c'est inacceptable. Hein. Les bidonvilles, il y en a eu dans les années 60, 70. On s'est d'ailleurs battu pour améliorer les conditions de logement. On a réussi à sortir, la France a réussi à sortir de ces bidonvilles. Elle y replonge. Et en plus, elle y replonge avec inefficacité. Ce prisme qui est de dire il faut qu'on soit suffisamment inhumain dans notre accueil pour
décourager.
Les gens aillent ailleurs, c'est absolument aberrant. D'abord, on n'arrive jamais à renvoyer les gens dans leur pays parce qu'il faudrait des conventions, etc. Et puis, la partie qui vient chez nous, c'est une toute petite partie des migrations climatiques, géopolitiques, économiques.
Vous n'avez pas répondu à ma question, ceci dit, Éric Piolle. Vous faites partie de ces maires qui disent « il y a du travail, il y a matière à insérer des migrants économiques chez moi, dans ma ville ?»
Sur le travail, on a eu depuis cet automne deux grosses manifestations et articles, notamment d'acteurs majeurs de la restauration, qui disent « nous, on n'arrive pas à trouver aujourd'hui de salariés, et dont certains qui ne tournent que avec des travailleurs étrangers ». Oui, effectivement, il y a, malgré un chômage de masse énorme, et il y a des jobs qui sont non pourvus, et qui dans l'histoire ont souvent été pourvus par des migrants, parce que c'est un sas, un pied d'appui d'intégration dans la société, d'intégration économique et de contribution à la vie sociale.
À l'échelle nationale, 300 000 jobs non pourvus à l'heure actuelle, selon le dernier rapport de Pôle emploi d'ailleurs. Alors vous faites des propositions très concrètes pour que les villes se parlent davantage et partagent des solutions quant à l'accueil des migrants. Une question plus générale avant qu'on se quitte pour le flash, mais un bon maire pour vous, est-ce que c'est un maire dont on oublie l'étiquette politique ?
Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a quelque part le cap quand même, le cap qui est donné par la couleur politique. Nous, on est élus d'une liste citoyenne, solidaire et écologiste. Évidemment, ce cap, il correspond quand même à une sociologie. Mais derrière, nous sommes tous confrontés, c'est pour ça que cette tribune, elle est faite avec des gens de droite, de gauche, écologistes, de partout. C'est que derrière, nous sommes tous confrontés au développement de notre ville.
Ouais. Merci Éric Piolle, vous êtes le maire de Grenoble. Merci d'avoir été en ligne avec nous. On se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash. C'est maire qui change tout.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI 7 milliards de voisins. Les maires des communes peuvent-ils changer la vie des habitants? Réponse avec des expériences menées par des maires de villages ou de villes en France. Mathieu Riva, vous publiez « Ces maires qui changent tout ». On est très loin de l'image des maires qui passent leur journée à couper des rubans pour inaugurer un bâtiment ou à faire des discours lors de journées commémoratives. D'ailleurs, je pense que cette image dans la tête des Français, elle a changé, non?
Oui, oui, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les maires, ils sont plus vus comme des hommes politiques qui sont plus plongés en fait, dans le quotidien et le concret des enjeux. C'est des exemples, il y en a beaucoup, sur des maires qui, notamment dans le livre, j'en cite plusieurs, qui, par exemple, à Ungersheim, il y a le maire qui s'appelle Jean-Claude Mensch. Quand je l'ai rencontré, il était en train de construire lui-même en fait un bâtiment qui serait un bâtiment public. Donc il mettait lui-même la main à la pâte en faisant de la maçonnerie. Donc là, on est effectivement très loin de l'image du. Oui, oui. Alors c'est un exemple un peu peut-être. Particulier, mais en tout cas très clairement tous les autres maires sont dans une logique qui est celle-ci, c'est-à-dire de s'impliquer, d'être présent sur le terrain pour aller rencontrer les habitants et faire avec eux.
Alors aujourd'hui, en tout cas, ils se battent à leur niveau pour la transition écologique, pour l'amélioration des conditions de vie des habitants, pour l'emploi, bien évidemment. Et ça, c'est très compliqué. Daniel est un auditeur. Non, c'est pas Daniel d'ailleurs. Nous avons Moumine. Moumine nous appelle du Mali. Vous êtes à Sikasso, Moumine. Bonjour, Moumine.
Oui, bonjour, madame. Je suis à Sikasso.
Moumine, vous avez 29 ans et vous nous appelez. Alors, évidemment, la comparaison entre la problématique des élus locaux au Mali et en France est forcément un peu osée parce qu'à l'heure actuelle, il y a une problématique sécuritaire pour ne pas dire que votre pays est en situation de conflit avec la menace djihadiste. Mais évidemment, ça rend plus difficile une vie locale sereine. Mais vous souhaitez nous parler de la gouvernance locale à Sikasso, Moumine?
Oui, bon, je souhaite intervenir un peu à Sikasso.
Oui, vous êtes en direct, on vous écoute.
Voilà, je souhaite un peu intervenir au niveau de Sikasso. Le maire actuel qui est récemment venu, vraiment, on peut témoigner plusieurs choses sur lui. Depuis son arrivée, il a quand même commencé à bosser déjà. Là, faire des quelques voiries, même l'autre jour, ils ont commencé à faire un chantier sur le marché de Dandalay.
Ouais,
donc, mais je dois quand même poser quelques questions sur les maires qui sont sur le plateau là-bas.
Ouais.
Voilà, si le maire est à côté de vous.
Alors, on a un maire au téléphone que je vais vous présenter dans quelques secondes. Allez-y, posez votre question, Moumine.
Bien, bon, je m'adresse à vous, monsieur le maire.
Allez-y.
Je m'adresse à vous. Quel est pour vous le véritable rôle du maire dans une commune? Ça, c'est ma première question. La deuxième question que je m'adresse toujours au maire, quelles sont les attributions d'intérêt communal du maire?
Alors c'est une bonne question. On est en ligne avec le maire de Douai dans le nord de la France. Bonjour Frédéric Chirot.
Oui, bonjour.
C'est parfois les questions les plus simples qui sont les plus intéressantes parce que ça montre bien aussi, je pense qu'en France, les citoyens ne savent pas très bien quelles sont les attributions d'un maire. Souvent, on attend trop de choses d'un maire par rapport aux pouvoirs qui lui sont conférés ou tout simplement pas assez d'ailleurs.
Oui, c'est un petit peu des deux, effectivement. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel je suis en train de réfléchir actuellement, parce que nous avons une sorte d'université populaire à Douai, une association qui organise des conférences, et celle que je vais faire début janvier, c'est qu'est-ce que fait au fond le maire? C'est quoi son travail?
Ah bah
c'est
voyez,
quoi son métier?
Voilà. Donc,
c'est finalement assez mystérieux
question,
pour beaucoup de
exactement,
gens.
Exactement, une question très simple, et en même temps, que beaucoup de citoyens se posent dans de nombreuses villes, et pas seulement en France. Alors, pour répondre à Moumine, quel est pour vous le véritable rôle d'un maire dans sa commune?
Alors, on a souvent coutume de répondre, un maire a trois métiers, trois types de choses qu'il fait dans sa journée, dans sa semaine, sur des semaines assez chargées. Voilà, sur une semaine type de 75 heures, le maire, il va être 25 heures dans sa mairie, où il est au fond le chef de l'administration, Il pilote les services, il fait en sorte que l'administration tourne, il doit signer tout un ensemble de documents, etc. Sa présence est indispensable à ce que l'administration tourne, et c'est lui qui donne les directives. Il est 25 heures par semaine aussi, à peu près, dans sa ville, parce qu'au fond, le maire, il incarne, il rend physique, humain, la République, la mairie, toutes ces institutions qui sont peut-être parfois un peu impersonnelles. Le maire, pour beaucoup d'habitants, c'est le visage de la République. Mmh. C'est le responsable politique élu qu'on rencontre à la boulangerie. Et donc c'est très important qu'on soit dans les associations, dans les fêtes, dans les événements de sa ville. Ça, c'est aussi un gros tiers de l'activité. Et puis le troisième tiers, c'est le maire, il doit être hors de sa commune. Il va dans son agglo, travailler sur des projets qui dépassent sa commune. Il va dans sa région, dans son département, auprès de l'État, chercher des financements. Il est membre d'un certain nombre d'associations où se défendent et se négocient des choses qui dépassent le seul cadre municipal. Et tout ça, mais voilà, ça fait une vie de maire bien remplie.
Ouais, voire même à l'étranger, parfois.
Parfois à l'étranger, bien sûr, ce qui m'est arrivé récemment, ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. On a aussi des coopérations internationales, et c'est des moments d'ouverture. Rencontrer des élus, mais aussi des habitants d'autres pays, c'est extrêmement enrichissant.
Alors, vous êtes le maire de Douai, vous vous mobilisez en ce moment pour la survie des centres-villes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le problème à Douai, et qui est partagé par de très nombreuses villes en France, et pas seulement en France ?
Eh bien voilà, là aussi, c'est l'intérêt de sortir un peu de son beffroi, comme on dit dans le Nord, de sortir de sa commune. On s'aperçoit que les problèmes qu'on rencontre, ils existent aussi à beaucoup d'autres endroits. Les villes moyennes en France, et Douai est un bon exemple, connaissent une certaine désaffection des centres-villes. Je ne vais pas dire qu'à Douai, le centre-ville est désert et mort, etc. Au contraire, on a un centre-ville très joli, agréable, fréquenté, avec des très belles boutiques. Mais on a beaucoup plus qu'auparavant des boutiques vides. Des commerçants qui nous disent le chiffre d'affaires est un petit peu en baisse, on est en difficulté. Des logements vides dans certains quartiers de Douai. Moi, j'ai 20% de logements vides en cœur de ville. Et ça commence à devenir inquiétant. Mais c'est pas spécifique à Douai. Toutes les villes moyennes de France connaissent ça parce qu'au fond, chacun d'entre nous en fait l'expérience. On va davantage faire ses courses sur Internet. On va davantage faire ses courses en périphérie. Les gens qui me disent, monsieur le maire, comment ça se fait autrefois à Douai? On trouvait tout en centre-ville. Tout le monde venait en centre-ville. On appelait Douai le petit Paris, mais... Oui, je leur dis, à cette époque-là, il n'y avait pas forcément deux véhicules par ménage, il n'y avait pas de grande surface en périphérie, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, tout ça, c'est une réalité, et les mêmes qui s'inquiètent de la désaffection du centre-ville vont être les premiers, parfois, à acheter un livre ou une paire de chaussures sur Internet ou aller faire leurs courses dans une grande surface de périphérie.
Et les 20% de logements vacants en centre-ville à Douai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habitants veulent leur pavillon à la sortie de la ville avec un petit carré de jardin devant?
Ça veut dire aussi, c'est souvent des logements privés, parce que dans le logement social, vous avez très peu de vacances en réalité. Et les logements sont entretenus globalement. C'est souvent des gens qui sont propriétaires d'un appartement ou d'un petit immeuble, qui ont peut-être parfois des difficultés à l'entretenir, qui sont même pas forcément résidents à Douai. Ils sont propriétaires à Douai, mais ils peuvent habiter à l'autre bout de la France. Certains sont partis en retraite ou alors ont hérité, etc. Et donc les propriétaires ne sont pas là. Donc ils ont du mal à entretenir leur patrimoine, ils ont des appartements vieillissants dans lesquels des travaux n'ont pas forcément été faits, qu'ils ont du mal à relouer. Alors on a du coup quelquefois des personnes qui cherchent ce genre de biens, qui les achètent, et puis sur une petite maison de ville de 150 mètres carrés ou sur un immeuble où il y avait deux appartements, on vous fait 4, 5, 6 logements, des toutes petites cages à lapins, des choses faites à l'économie. Et ce phénomène-là, il existe aussi. Les marchands de sommeil, aujourd'hui, sont à l'affût de ce genre de biens dans les centres-villes.
Alors vous avez en quelque sorte déclaré la guerre aux hypermarchés et à tout ce qui se monte en périphérie de ville et qui, justement, vous le disiez, vide le centre-ville. Aujourd'hui, quand même, la plupart des habitants en France pensent que les hypermarchés, alors bien sûr, sont commodes, mais créent aussi des emplois à la grande distribution.
Alors, je ne suis pas parti en guerre. Moi, je pense qu'il faut un équilibre. Il y a des choses qui se trouveront en périphérie et à la limite qui se trouvent bien en périphérie. Quand c'est des choses lourdes, quand c'est des produits de bricolage, quand c'est de l'ameublement pour la maison. Autrefois, on venait chercher ça en centre-ville, mais ce n'est pas forcément simple. Vous venez avec votre grosse voiture, éventuellement vous louez une camionnette. Vous n'avez pas forcément... ça peut être mal commode de venir chercher des produits de ce type en centre-ville. Donc il y a des choses qui doivent être en périphérie et pourquoi pas. Mais ce qu'il faut simplement regarder, c'est que depuis des années, la consommation n'augmente pas en France. La consommation n'augmente pas. Donc tous les mètres carrés commerciaux qu'on crée ne rajoutent pas de la consommation, ne rajoutent pas de l'emploi. Ça ne fait que déplacer. Ça vide d'autres mètres carrés ailleurs. Ça tue de l'emploi dans les commerces les plus anciens, les plus petits. Ça ne crée pas d'emploi, ça ne crée pas de richesse. Ça déplace. Il faut à un moment donné s'en rendre compte. Alors évidemment, c'est pas facile pour un maire de,
Mais justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question.
Vous créez 30, 40, 50, 100 emplois, vous allez voir.
C'est ça, ce sont bien vous qui donnez les autorisations d'implantation d'un supermarché ou d'un hypermarché.
Mais parfois, une autorisation dans une commune va avoir un effet sur la commune d'à côté. Comment on fait dans ces cas-là? Alors évidemment, ça doit se négocier à l'échelle d'une agglomération, à l'échelle d'un schéma de cohérence territoriale, mais c'est des négociations difficiles entre élus. Il faut avoir conscience que le commerce s'organise à l'échelle d'un grand territoire et pas simplement d'une commune. Il faut que, au niveau des territoires, des agglomérations, on définisse ces équilibres en disant voilà ce que nous acceptons en périphérie, voilà ce que nous voulons pour nos centres-villes, et se dire il n'est pas raisonnable à un moment de rajouter encore et encore et encore des mètres carrés.
Est-ce qu'aujourd'hui vous commencez à être entendu? Est-ce que vous commencez à être entendu quand vous dites simplement que ça vide l'emploi en centre-ville et que ça le déplace et que ça ne crée pas d'emploi? Ou pas? Ou est-ce que les idées
je crois qu'aujourd'hui, l'État commence un peu à l'entendre.
Vous parlez de l'État, mais les habitants qui votent pour les maires, est-ce qu'ils l'entendent, ça?
Les habitants, mais je me range dedans, c'est-à-dire que les élus sont aussi des habitants. On est tous parfois un peu paradoxal, c'est-à-dire que on va demander au maire de soutenir un projet qui s'annonce sur le papier porteur d'emploi, et puis en même temps on va condamner le maire qui laisse dépérir son centre-ville. On veut tout et son contraire. Et les élus eux-mêmes sont parfois un peu contradictoires là-dessus. C'est vrai qu'une grosse entreprise de distribution qui vient vous faire miroiter 200, 300 emplois, c'est difficile de résister. Et pour autant, d'ailleurs, les objectifs annoncés ne sont pas forcément toujours tenus, ce n'est pas forcément toujours des emplois de qualité. Et à l'échelle de tout un bassin, en réalité, la création d'emplois est parfois nulle. Et elle est même parfois de la destruction d'emplois, parce que les emplois de mauvaise qualité qu'on va créer dans une grande surface, en partie de mauvaise qualité, peuvent parfois tuer des emplois d'indépendants, de petits commerçants dans les centres-villes, où à la limite, pour le même chiffre d'affaires, il y avait un peu plus d'emplois.
Mais alors du coup, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement?
Moi, je demande au gouvernement aujourd'hui de mettre des règles un peu plus strictes sur le développement de mètres carrés commerciaux, ou alors peut-être d'entrer dans un dialogue avec les grands groupes qui gèrent des grandes surfaces commerciales en périphérie, en leur disant, écoutez, au fond, vous êtes des champions économiques nationaux, vous avez des moyens, aidez-nous, revenez dans les centres-villes. Ces grandes surfaces aujourd'hui sont en train de revoir complètement leur modèle. Aujourd'hui, beaucoup moins de gens vont pousser un caddie dans un hypermarché de 1500 m². Beaucoup de gens vont au drive. Certaines personnes vont au drive et puis en parallèle vont acheter dans un petit commerce de quartier ce qui peut leur manquer.
Le drive, c'est quand on vient avec sa voiture récupérer directement ses courses achetées sur Internet. Ouais.
On a fait sa commande sur Internet et on vient remplir le coffre. Et moi-même, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Donc ces grandes entreprises-là sont en train de revoir leur modèle. Je pense que c'est le moment d'aller les voir et de leur dire, écoutez, on ne veut pas votre peau, mais on veut travailler ensemble, on veut conserver des villes à taille humaine avec une activité, une attractivité. Vous pouvez faire partie de l'aventure. Qu'est-ce que vous avez, vous, grandes entreprises de distribution, à proposer pour nos centres-villes, dans nos centres-villes?
Haute diplomatie, donc, pour le maire que vous êtes. Juste une dernière question. Quand un supermarché, ou quand un hypermarché, plutôt, met la clé sous la porte, en périphérie de la ville, et laisse ses bâtiments déserts en friche, je ne sais pas si ça s'appelle d'ailleurs une friche industrielle ou pas, mais quel est le pouvoir des maires pour obtenir qu'ils laissent le terrain propre, qu'ils remballent, en quelque sorte, leur préfabriqué? Parce que ça, tous les habitants le voient, hein, c'est visible à l'œil nu.
Oui, tout à fait. Alors, le pouvoir du maire, il peut être simplement sur la sécurité. C'est-à-dire que s'il y a des intrusions, s'il y a du squat, là, au fond, l'entreprise...
Non, je ne parlais pas de squat, là. Je parlais de friches, quoi. De préfabriqués qui sont laissés sur des milliers de mètres carrés, rouillés pendant des années et des années.
En général, ces entreprises essayent quand même de valoriser les terrains qu'elles possèdent, les fonciers qu'elles possèdent. Voilà, moi j'ai une grande surface de distribution spécialisée à Douai qui a fermé, qui s'est déplacée d'ailleurs, qui s'est remise un peu plus loin en périphérie. Aujourd'hui, l'entreprise cherche à valoriser son terrain et nous sommes en dialogue. Moi, je lui dis, j'aimerais à cet endroit-là plutôt développer du logement, éventuellement un petit peu de petit commerce de proximité, mais du logement. Et l'entreprise est prête à le faire elle-même. Si elle ne le fait pas, il existe des outils comme les établissements publics fonciers, qui sont des structures publiques capables de racheter des terrains, de les garder, je dirais, au frigo pendant quelques années, le temps qu'un projet émerge. Un établissement public foncier, il est même capable de raser les bâtiments, de sécuriser le terrain, voilà, et de créer toutes les conditions pour qu'ensuite ça puisse être repris.
Voilà, je crois qu'on a bien compris les galères au quotidien d'un maire, Frédéric Chéreau. Merci, vous êtes maire de Douai. Et donc, je redonne le découpage de votre semaine de 75 heures, 25 heures chef d'administration, 25 heures pour incarner sa ville auprès des habitants, et puis 25 heures pour être hors de sa commune et aller discuter, notamment, évidemment, aussi à Paris. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Frédéric Chéreau.
Merci, merci beaucoup.
On se retrouve dans quelques instants, Mathieu Riva, pour parler de ces maires qui changent tout. Lutter contre l'étalement urbain, d'ailleurs, notamment, hein, c'est un des gros problèmes à l'heure actuelle. Créer de l'emploi, créer des initiatives qui se voient. On voit bien à quel point les habitants attendent des choses qui se voient. On en discute juste après. People Say. C'était 7 milliards de voisins, je vous avais annoncé People Say, mais non, en fait, c'est One More Night, Michael Kiwanuka, sur RFI. On parle du pouvoir des maires, ce que réalisent vraiment les maires, est-ce qu'ils peuvent changer la vie des habitants concrètement ? On entendait nos auditeurs, notamment sur le continent africain, ont de grosses attentes, et souvent de grosses déceptions aussi, mais on le voit bien, ils attendent des choses visibles, très concrètes, très précises. Frédéric Chéreau, maire de Douai, nous expliquait il y a quelques minutes comment il luttait contre l'étalement urbain. urbains et puis ces supermarchés, ces hypermarchés construits à la périphérie des villes qui ne font que renforcer ces villes qui s'étalent et qui se creusent du milieu et qui se vident par le centre. Mathieu Riva, dans votre livre « Ces maires qui changent tout », vous avez rencontré des maires aussi qui sont très, très conscients de ce problème-là, de ces centres-villes qui se vident. C'est pas bon pour l'environnement. Ça veut dire qu'on a des trajets de plus en plus longs, qu'il faut faire en voiture, qu'il faut faire en transport en commun pour aller, par exemple, de son travail à son habitation et à ses courses.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'étalement urbain, c'est un vrai enjeu écologique, puisque en France, grosso modo, il y a tous les 10 ans un département qui disparaît sous le béton, lié soit à la construction de centres commerciaux, soit à la construction de zones pavillonnaires, sachant qu'en plus les deux sont souvent très liés.
C'est vrai que c'est la même chose, les chiffres je ne saurais dire, mais dans les villes africaines, les villes se construisent à l'horizontale et donc ça s'étale aussi. Et il faut de plus en plus de temps pour rallier un point à un autre.
Oui, tout à fait. Et alors, pour suivre en fait l'exemple du maire de Douai, et pour prolonger la discussion, il y a notamment à Los Angeles un exemple très, très particulier. Donc Los Angeles, c'est une petite ville dans le nord de la France qui a été pendant 150 ans marquée par l'industrie minière, puisque plusieurs puits en fait étaient creusés dans la ville pour remonter du charbon. Et puis à la fin des années 80, quand la mine a fermé, la ville s'est effondrée, à la fois économiquement, socialement. D'un point de vue écologique, c'était aussi une catastrophe puisque le sol s'est affaissé de plusieurs mètres. Les cours d'eau avaient changé de sens suite justement à l'exploitation minière. Et donc le maire a fait le pari pour relancer la ville, a fait le pari de l'écologie en disant si on veut renaître un peu de nos cendres, c'est en pariant sur un renouveau écologique et une reconstruction du territoire. Et notamment, un des principaux enjeux auxquels il a été confronté, c'est précisément l'étalement urbain. Et c'est un exemple très frappant parce qu'en fait, Los Angeles est situé juste à côté de Lens, qui est une autre ville minière à une dizaine de kilomètres. Et moi, quand je suis arrivé pour visiter Los Angeles, Lens, en fait, c'est une ville dont le centre est complètement vidé, avec autour des centres commerciaux. Et quand je suis arrivé à Los Angeles...
Autant dire concrètement que pour les habitants, c'est sinistre.
C'est absolument
sinistre. C'est pas rigolo du tout, une ville qui est vidée.
Le cinéma était tombé en lambeaux parce que il y avait un immense complexe de cinéma, par exemple, juste à côté, qui s'était construit. Et 10 kilomètres à côté, à Los Angeles, l'image était tout à fait inversée, puisqu'au contraire, c'était un centre-ville vivant, avec des petits commerces, et du coup, une vie beaucoup plus agréable Voilà, et donc la différence, en fait, elle a été créée par le maire lui-même de Los Angeles, qui a refusé en fait d'installer des centres commerciaux en périphérie de sa ville. Et pour ça, en fait, il a notamment construit ce qu'il appelle une ceinture verte. Donc autour de la ville, il a réaménagé des espaces naturels qui permettent aux habitants d'avoir des espaces pour se promener, pour courir, pour sortir un peu du béton. Et de manière naturelle, en fait, ça a été comme une frontière qui s'est construite et qui a évité à la fois que de nouveaux pavillons se construisent. Ça a créé aussi du lien entre différents quartiers de la ville. Ça a encouragé les déplacements à vélo. Et donc, ça a évité l'arrivée, notamment, de zones commerciales. Donc, c'est un choix fort parce que Los Angeles, c'est une ville pauvre. Il y a à peu près 60 à 70%
beaucoup de chômage.
Des gens, beaucoup de chômage, des gens qui ne paient pas d'impôts précisément. Parce qu'ils ont des revenus faibles. Donc on aurait pu penser qu'un maire dans cette situation aurait fait le choix justement de zones commerciales pour créer de l'emploi, ramener de l'argent, etc. Et lui, il a préféré faire ce choix de garder un centre vivant.
Alors, raconter comme ça, on se dit, mais en fait, c'est simple. Mais est-ce que ces expériences sont duplicables ou bien le problème, justement, c'est que chaque commune est différente, avec des histoires, avec des habitants différents et que rien ne peut se transférer?
Alors, tout l'enjeu, justement, de Los Angoel et de son maire, c'est d'essayer de...
De servir de laboratoire, de dire aux autres, vous voyez, on a réussi, ça marche, les gens sont contents.
C'est ça, il essaie aussi d'écrire en fait de manière très précise l'ensemble des initiatives qu'il a menées pour essayer d'en faire un modèle à dupliquer ailleurs, sachant que à chaque fois et dans toutes les expériences que j'ai pu voir, tous les maires disent le copier-coller ça peut pas exister, il faut que ça s'adapte en fait à chaque fois à un contexte, mais il y a des choses qui sont des sortes d'invariants qu'il faut qui peuvent être dupliqués. Un des autres enjeux, au-delà de la duplication, un des autres enjeux intéressants des communes, c'est la possibilité en fait d'essaimer sur le territoire. L'exemple le plus concret, le plus réel qui existe, c'est notamment celui du petit village de Puy-Saint-André, donc dans les Alpes en France, où le maire, en fait, lui... a commencé notamment sur la question énergétique à réaliser, à construire en fait des panneaux solaires sur les toits de son village. Et il a ensuite étendu cette initiative à la communauté de communes, donc déjà un niveau de territoire plus large, et puis au niveau du pays. Et progressivement, ça s'est comme ça transmis dans l'ensemble.
Preuve qu'on peut faire des choses et pas seulement parce qu'on est tout petit. Parce qu'évidemment, les maires des grandes villes disent « Ah bah oui, mais c'est plus simple de transformer la réalité à partir d'un petit village. » Mais en fait, on voit bien avec cet exemple que ça marche, y compris quand on essaime. Merci beaucoup Mathieu Riva. Vous publiez « Ces maires qui changent tout ». C'est publié chez Actes Sud. Merci aussi à toute l'équipe.
Merci.
Baptiste Madinier, Sophia Bédard, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Et puis réécouter nos émissions sur RFI, Pure Radio, sur l'appli pour smartphone. Demain, je laisse les clés de la maison à Charlie Dupiot. Les voisins, les pays du Nord sont-ils plus heureux ? RFI.